nuance de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les 6 stars du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Aujourd'hui, on voyage jusqu'en Corse. Mon invitée du jour est Stéphanie Raffaelli De Peretti, la fondatrice de Marée Dilatée, qui a été choisie comme Sista par Cyril Chiche, cofondateur de Lydia. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Alors Stéphanie, je te propose de passer à l'exercice incontournable du pitch.
Pitch, oh mon pitch. Pitch, oh mon pitch.
Tu nous parles de Marée Dilatée ?
Alors, Marée Dilatée, c'est une marque de vêtements plutôt resort. C'est parti d'une idée toute bête et assez futile, mais que serait-on sans futilité ? Ça nous évade et ça nous aide aussi. Et c'était comment s'habiller pour aller à la plage, sans être trop sophistiqué, ne pas avoir chaud, être chic, féminine, et pouvoir porter des vêtements du soir au matin, du matin au soir.
Et je crois que ce n'était pas ta première aventure entrepreneuriale.
Non, j'avais déjà fondé, à mon retour de Madagascar, à la fin de mes études, une marque qui s'appelait Baobab.
Oui.
Et c'était des paniers en raffia.
D'accord.
Voilà. Mon seul talent, entre guillemets, avait juste été de dégoter ces paniers qui existaient déjà.
Alors que tu vivais là-bas ?
Moi, je vivais là-bas. J'avais suivi celui qui allait devenir mon mari. Et donc, comme je suis très curieuse, j'allais sur les marchés, je fouinais. J'ai découvert des paniers qui étaient des paniers qui portaient les malgaches. Et voilà, mon idée, ça a juste été de faire 3 tailles différentes et de mettre une poche intérieure zippée à l'intérieur. Voilà, c'est tout. Le panier existait déjà. Et on a fait des couleurs qui pouvaient convenir au marché européen, puis des couleurs que j'aimais, qui n'étaient pas des couleurs forcément malgaches. Voilà.
Et la marque s'est implantée en France ?
Elle s'est très vite implantée en France. On a fait des... Et là, alors je vais squeezer les questions. C'est une femme que j'aimais beaucoup, que j'admirais beaucoup à l'époque, une femme d'affaires qui avait une marque qui s'appelait Globetrotter. Qui a vu ses produits, elle nous a dit, mais il faut que vous preniez un stand aux maisons et objets, vous allez cartonner et tout ça. Moi, je me disais, mais non, avec nos 3 paniers et 7 tables en raffia, qu'est-ce qu'on va faire? Je m'en souviens, on prenait le train entre Nice et Paris dans la nuit, je dormais pas, je disais, mais n'importe quoi, on va être ridicule. On avait un tout petit stand et puis ça a eu beaucoup de succès parce que c'était joyeux, c'était frais, c'était utile, ça plaisait un peu à tout le monde, en fait. Ça pouvait servir en déco, comme en mode. Et ça a eu beaucoup de succès.
Et c'est devenu une vraie marque.
Ouais, c'est devenu une vraie marque.
Que voilà. Tu as revendue ?
Oui, j'ai revendu la marque en 2003.
Et est-ce qu'elle a été source d'inspiration pour ta deuxième aventure entrepreneuriale ?
Oui, parce que c'était... Donc, une fois que le panier... Vous savez, un produit, il a une durée de vie. Et puis après, il commence à s'éteindre un peu. Là-dessus, d'autres idées arrivent. Comme on était aux maisons et objets, donc j'ai commencé à faire de la déco. Des couvre-lits, des coussins et tout. Et j'étais toujours entre deux mondes. Comme c'était des sacs, de la rabanne, c'est devenu du raffia crocheté. On faisait également le salon première classe. C'était un tout petit salon à l'époque. Donc, j'ai toujours aussi entre deux mondes.
L'univers de la mode.
Voilà, la mode et la maison. Et donc, quand j'ai revendu ma marque, donc j'ai revendu Baobab, j'ai eu un deuxième enfant. Et là, j'ai eu envie de vraiment faire ce que j'aimais profondément, c'est de la mode.
Et c'est comme ça qu'est née
Marée Dilatée.
Marée Dilatée.
Voilà.
Alors, comment on fait au tout début, quand on crée sa marque ? Comment on fait pour en faire une vraie marque ?
C'est vrai, pas toujours quelque chose qu'on décide.
Oui.
Je me rends compte aujourd'hui que j'ai beaucoup suivi mes intuitions. M'ont pas trop trompé. Voilà. J'ai pas eu de stratégie de marque. Voilà. J'ai pas pris d'agence de com. Tout de suite, j'ai juste suivi mon instinct, mes envies. Et c'est comme ça que d'une envie, d'une idée, On demande de l'argent, on se fait financer, puis on se retrouve à diriger une marque, vraiment.
Ouais.
Et à ce moment-là, on se demande ce qu'on va faire de cette marque, de ce qu'on a créé, de cette identité qu'on a créée de façon complètement instinctive.
Alors, tu parlais de financement. Mm-hmm. C'est vrai que c'est un marché compliqué, le marché de la mode.
Oui.
Comment tu t'es financée, du coup ?
Alors, c'est un marché compliqué, mais moi, je me suis axée tout de suite sur un marché, comme je vous disais, du resort, du comment vivre à la plage, comment vivre dans un hôtel. Donc, c'est des vêtements qui sont beaucoup vendus dans des grands hôtels,
oui,
parce qu'ils correspondent à cette villa de farniente. Après, évidemment, on a développé, pour que ça soit urbain, il y a des chemises, des pantalons. Comment on fait pour se faire financer ? Eh bien, un matin, j'ai pris ma voiture. Je suis allée voir j'étais à Porto Vecchio à l'époque. Je venais de revenir vivre en Corse, après des années, à Paris, à Madagascar, à Nice. Et j'avais mon bébé sur les bras, j'avais Jules, hein, il devait avoir 2 ans, 2-3 ans. Aujourd'hui, il en a 18, donc c'est bien ça, il y a 15 ans. Je suis montée voir mon père, je lui ai demandé de l'argent. Je lui ai demandé de me prêter 20 000 euros.
Pour lancer.
Et puis là, mon mari de l'époque a dit, ben écoute, je m'associe avec toi. Donc on est parti, je suis repartie en Inde. J'ai retrouvé mes fournisseurs, et j'ai eu l'idée de faire ces quelques peu de vêtements, un poncho de plage, un pareo malin, qui seraient des vêtements qu'on porte à la plage comme à la ville. Et voilà quoi, comment on se fait financer au début.
Au début.
Oui.
Et ensuite, je crois que tu as levé des fonds.
Oui, on a levé des fonds il y a 5 ans auprès d'une boîte qui s'appelle ACG, c'est devenu Smalt.
Oui.
Et on a levé à peu près un peu moins d'un million d'euros.
Tu as commencé avec une boutique ? En Corse ?
J'ai commencé avec une boutique en Corse, oui. Là, tout de suite, ben, je connaissais l'univers des salons par rapport à la déco.
Ta première expérience.
Voilà. Donc, tout de suite, j'ai fait un salon. J'avais fait maison et objets, d'ailleurs, parce que c'était des vêtements, mais je me disais que ça se portait un peu plus à la maison. Entre la maison et les courses qu'on va faire le matin quand on est l'été en vacances et tout. Et ça avait eu un petit succès, mais pas tant que ça. Et j'ai vite vu qu'il fallait que je change de stratégie. Et j'ai fait des salons, le Who's Next, le Fame, et voilà. Et là, ça a plu. Je le faisais de façon un peu bordélique au début. C'est vrai que quand je vois ce que c'était il y a quelques années, et aujourd'hui, que je vois tout ça, je me dis, mon Dieu, c'est fou. Comment ça, j'ai pu sortir la tête de l'eau. C'était très, très, très bordélique au début. Voilà. Mais bon, ça a marché, ça a plu quand même.
Et donc, tu avais ta boutique et des revendeurs au début ?
Voilà, j'avais une boutique à Bonifacio et je travaillais toute la journée, je travaillais au bureau à créer les modèles et tout. Et le soir, j'allais à la boutique, je libérais la vendeuse et je bossais de 7h à minuit à la boutique. Mais c'est bien aussi parce qu'on voit vivre les gens, on voit leur réaction et c'était bien. Voilà. Ouais, ça a commencé comme ça.
Et puis pour les gens, c'est sympa de rencontrer la créatrice, non ?
Oui, des fois je disais pas que j'étais la créatrice. Je me disais, ah, la patronne, je disais, bah non, elle est pas là. J'avais peur de me confronter à des requêtes où je devais être fatiguée, je devais pas avoir envie de discuter. Donc je disais, non, je suis pas la créatrice, elle est pas là, mais je ferai part de vos remarques. Ok, je lui dirai, très bien. Voilà.
Aujourd'hui, c'est combien de boutiques ?
C'est 3 boutiques en propre,
ouais.
Et c'est à peu près 150 points de vente dans le monde.
Dans le monde ?
Oui.
Tout continent ?
Tout continent, vraiment. Ouais. Ça, c'est bien, c'est formidable parce que de voir, c'est toujours bien de voir d'où on est parti sans le décider vraiment, d'être vendu vraiment dans des super points de vente. Ça fait plaisir.
Et l'international, c'est venu assez rapidement ?
Oui. Ouais, avec le Japon.
D'accord.
On vend très très bien au Japon.
Ils et grâce adorent. Justement à ces salons ou
Grâce à ces salons.
Ouais.
Et puis après, oui, j'ai eu des distributeurs. Après, vous savez qu'on fait ces salons, que ça plaît, il y a des commerciaux qui viennent à vous, les showrooms, et voilà quoi. Eux, ils ont leur réseau, leur zone de distribution, et voilà comment ça se met en place petit à petit.
Finalement, ça a été l'investissement des salons bordéliques, comme tu le disais tout à l'heure.
Au début, c'était. En fait, on débarquait avec Jean-Baptiste. Et mon premier salon, c'est une amie à moi, mon amie d'enfance, qui m'est venue nous aider. Parce qu'à l'époque, elle n'avait pas de fric. Elle voulait un peu redémarrer dans la vie. On était là tous les trois. Voilà, et puis on improvisait. Et toujours à l'instinct, à l'intuition, on a fait les choses comme ça.
Et tu sens qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire tout à fait de la même manière ?
Oui, aujourd'hui, c'est vraiment le marketing qui dirige la création et non, pas non plus l'inverse. Et oui, c'est dommage. Mais je ne me laisse pas trop faire, moi, quand même. Mais je ne me laisse pas faire, mais je suis obligée quand même de répondre à des règles pour survivre économiquement.
Oui.
Mais je ne vendrai jamais, j'espère en tout cas ne jamais vendre mon âme au diable au prix du marketing et de jamais faire des choses que j'aime pas parce qu'il faut répondre à une demande, à des envies complètement improbables. J'essaye d'éviter quand même.
T'as des exemples en tête quand tu dis ça ?
Oui, bah, y a des tendances, quoi. Les tendances, on va me demander si c'est la mode du Sarouel. Si j'ai pas envie d'en faire, j'en ferai pas. Voilà, s'il faut. Après, bon, maintenant, il y a vraiment des blogueuses qui font un peu, enfin, la loi, entre guillemets. Eh bien, on peut, des fois, mon attaché de presse me dit, voilà, Steph, il faut payer cette nana, il faut lui faire du gifting. Elle est très, elle a beaucoup de followers. Si elle ne me plaît pas, qu'elle véhicule pas un style de vie que j'aime, je ne rentre pas dans le jeu, quoi.
Et tu veux être fidèle à ta marque et à la demande de ta marque.
Voilà. Et c'est une difficulté de chaque instant.
Justement, le rôle des influenceuses, ça a un peu bouleversé le marché.
Ah oui, complètement. Complètement. Mais il y en a tellement aussi. Donc, on essaye de choisir les filles qui aiment aussi Marie Dilat. Je vais pas trop les. J'essaye de ne pas aller payer des nanas une fortune. Je ne le fais pas. Beaucoup de marques le font, hein. Moi, je le fais pas, mais j'ai la chance d'avoir des filles comme Inès de la Frissange qui aiment la marque, des filles connues, des actrices et tout, des hit girls, entre guillemets. Ça se dit plus, mais ça doit trahir mon âge, ce terme, je sais pas. Mais il y a des filles qui aiment la marque et qui les portent. Alors, je leur fais des cadeaux, je les remercie, évidemment. Mais ce genre de nana, c'est des vraies femmes d'influence comme Inès de la Frissange parce qu'elle est, elle fait du like, elle fait vendre, et c'est très spontané, et elle aime vraiment la marque. Et je trouve que même si on évolue lentement, nous, sur Instagram et tout, c'est une vraie communauté qu'on a qui est sûre.
Oui.
Voilà, donc j'achète pas des followers, je fais pas des opérations avec 10 nanas en hélico, en Corse, à leur faire leur dérouler le tapis rouge. Non, déjà, il faut avoir les moyens financiers de le faire. Et puis, c'est pas du tout, quand bien même je les aurais ou je pourrais me donner les moyens de les avoir, c'est pas notre philosophie.
Oui.
Voilà.
T'as une communauté de fidèles.
Oui. Je dis pas qu'on fait pas du gifting, qu'on joue pas le jeu, que j'ai pas une attachée de presse qui me guide, qui me dit voilà, il y a des filles qui sont en vue, voilà, il faut donner à ces filles-là, il faut les payer. Pour l'instant, j'ai jamais payé pour qu'une fille nous tague sur Instagram. J'offre beaucoup, voilà, à des filles qui aiment bien aussi. Pour le moment, écoutez, ça fonctionne plutôt bien comme ça.
On sort d'une année compliquée avec des boutiques qui ont été fermées.
Très compliquées. Ouais.
Qui ont été longuement fermées.
Ouais.
Cette année Covid. Cyril, vous voulez te poser une question à ce sujet.
Vous avez un message.
La question qui me travaille le plus, c'est qu'est-ce que ça a changé pour elle et comment ça va changer sa manière de faire son business, cette histoire de pandémie. Est-ce que elle va se lancer à fond dans l'e-commerce, par exemple ? Est-ce qu'elle va développer d'autres manières de vendre ?
Est-ce qu'elle va accepter Lydia ?
Est-ce qu'elle va accepter Lydia ? Je crois pas.
Évidemment que je vais accepter Lydia, je l'utilise depuis très longtemps. Ça a tout changé, et ça a changé plein de trucs, et c'est... J'ai envie de dire, c'est grave de dire ça, mais presque pour mon business en bien.
Ouais.
Tout d'abord, je vais dire un truc très personnel. Ce confinement m'a permis de me reposer, de me poser à la maison et c'était pas mal.
Et voilà. C'était une phase de création
intense. Ça a été super. On a pu être créatif. On n'a pas perdu du temps dans les embouteillages, dans les avions, dans les voyages. On s'est posé, on a réfléchi, on a tout reposé à plat. Et franchement, pour moi, ça a été bien. Alors, économiquement, évidemment, ça a été une année compliquée, hein, 2019-2020, parce que tous nos clients étaient fermés.
Oui.
Mais je me suis maintenue dans le chiffre en wholesale. Alors, une année, quand ça nous est tombé dessus en mars, j'avais déjà livré une partie de mes clients. Dieu merci, même s'ils étaient fermés. J'ai pu voir à quel point ce que j'avais créé en Inde chez mes fournisseurs, c'était solide, c'était une bonne base. Ça, c'est pas mal de s'en rendre compte. Sinon, j'aurais jamais pu livrer mes clients et continuer mon business parce qu'on pouvait pas y aller. Et puis en Inde, ça a été terrible ce qui s'est passé, oui. Vraiment. Hein. Et c'est vraiment ma principale source de fabrication, c'est en Inde. Donc ça a beaucoup, on s'est posé, comme je vous disais, on a créé, on a tout, on a fait beaucoup de zoom avec les filles de mon équipe, on a beaucoup travaillé justement notre Instagram, Facebook et tout ça. Avec nos clients, là, on a pu leur faire des facilités de paiement, leur dire, bah, écoutez, vous nous paierez plus tard et tout, donc ça a été compliqué, mais les banques, elles ont été patientes aussi. Ça m'a permis de voir que quand j'ai ouvert plus tard mes boutiques et qu'on s'est maintenu dans le chiffre avec une amplitude d'ouverture plus faible, plus réduite, j'ai pu voir à quel point j'ai pu compter sur ma fille parce que c'était très compliqué de trouver des gens pour bosser parce que les femmes qui ont des gosses, évidemment, c'est toujours elles qui sont impactées. Excusez-moi, c'est mon petit quart d'heure féministe, mais c'est toujours elles qui sont impactées quand elles ont des enfants à ne pas aller travailler. Les mecs, ils ont pu y aller, mais elle, c'était très compliqué avec la crèche et tout ça. Donc, mes responsables de boutique, pour celles qui avaient des enfants en bas âge, ça a été compliqué. Et j'ai dit à ma fille, Colette, elle n'avait pas cours, évidemment. J'ai dit, faut que tu m'aides, il faut que tu ailles t'occuper de la boutique de Porto Vecchio. Elle l'a fait. Voilà, on a réduit, je vous dis, les horaires. Ça a bien marché aussi. Et évidemment, pendant cette période, on a développé à fond le e-shop. Et là, heureusement, on avait déjà fait des photos, le shooting et tout ça. J'avais déjà lancé.
Ça avait tout le matériel machine. Pour.
Voilà. Et là, ça a explosé complètement. Et c'était super, en fait. Voilà. Donc, on s'est à peine maintenu dans le wholesale parce que la saison d'après, en octobre, l'année dernière, nos clients étrangers ne sont pas venus.
Oui.
En 2020, ça a été. Donc, on a fait des zooms et tout. Bon, bref, ça a été compliqué. On s'est battu. J'ai vu aussi que j'ai pu compter sur mon équipe. Que j'ai une équipe qui a du cœur, elles ont été investies, elles ne m'ont jamais lâchée. Donc, merci à ces nanas, hein, c'est que des femmes là aussi, mais qui ont été là. Franchement, on s'est soutenues, on s'est démenées. Et on a maintenu le chiffre en wholesale. Et on a évidemment progressé dans le e-shop. Alors, j'ai noté mes chiffres tout à l'heure. On a fait du plus 64%, un truc comme ça. Et donc, je vous dis, le wholesale, on s'est maintenu. Et dans le retail, on a aussi augmenté notre chiffre d'affaires. Voilà, peut-être parce que...
Digital a peut-être aidé.
En fait, oui, il y a une digitalisation du business, ouais. Si vous voulez. C'est quand il y a des boutiques, ça rassure les gens. Ils achètent aussi plus sur le e-shop. Il y a une espèce de vase communicant entre les deux. Il n'y a pas un business qui tue l'autre. Je pense que ça se développe...
Ça ne se cannibalise pas, mais...
Non. En tout cas, pour Marie-Dilat et nous, voilà, ça a aidé, tout s'est développé parce que le e-shop, c'est de l'image, c'est de la com aussi. Et donc, les gens. Et puis, venir dans une boutique, aujourd'hui, c'est une expérience. Et on a essayé de la rendre agréable. Il y a un son, Marie-Dilat, il y a une odeur dans les boutiques, il y a un accueil. On a vraiment. Donc, ça nous a rendu un peu. On s'est remis en question aussi avec ce Covid. On a dit là, il faut faire vraiment des efforts. Il faut qu'on crée cette expérience-là client. Parce que les gens, ils sont sur leur canapé, tranquilles, ils ont tout ce qu'ils veulent. Pourquoi ils vont se bouger et venir dans une boutique? Eh bien, pour autre chose, pour toucher les matières, pour discuter. Les filles avec qui je travaille, elles conseillent bien, elles sont imprégnées de la marque. On leur enseigne beaucoup comment la marque est née, comment la collection, qu'est-ce qui nous a fait faire cette collection cette année-là, pourquoi cette couleur, pourquoi. Et quand les gens rentrent dans la boutique, je pense qu'on leur raconte une histoire. Je me dis que c'est peut-être ça. Et puis, des gens ont peut-être économisé. Ils sont plus venus en Corse en vacances et tout pour nos boutiques. Et voilà, donc nous, ça a été pour nous. Et ça va changer la donne, oui, pour l'avenir aussi. On va en tirer des enseignements. Et en fait, ça nous a permis de se réinventer. Voilà, et ça, c'est pas mal. Et c'est le rôle d'un dirigeant d'entreprise, c'est ça. C'est ce qui nous différencie des autres. C'est toujours de se... de se remettre en question, de rebondir. C'est la difficulté de notre rôle, en fait.
Tout à fait. Et ça t'a ouvert des pays où tu n'avais jamais encore livré l'e-shop?
Ah mais ouais, on livre partout, quoi. Des trucs, des villes dont je ne soupçonnais pas l'existence, je ne devrais pas le dire. Ça montre mon inculture, mais oui, on vend partout, quoi. Vraiment partout. Alors... On vend beaucoup, ou c'est ça, c'est étrange de le voir dans nos clients, de Corse, de la diaspora qu'il y a dans le monde. Ils doivent avoir l'impression d'acheter un peu de Corse, je ne sais pas. Mais on vend partout. On vend aux États-Unis, on vend en Allemagne, on vend à Londres, en Israël aussi. Enfin, vraiment, c'est vaste le e-shop. Et là, on va beaucoup miser là-dessus, oui, en effet.
Voilà, sur les plans de 2022, ouais, il y a un gros focus e-shop.
Gros focus e-shop.
C'est quoi tes enjeux aujourd'hui avec la marque ?
Mes enjeux, c'est de me maintenir,
ouais,
comme ça, de bien évoluer, de garder mon identité. Et là, justement, je pense qu'on arrive à un stade où je ne peux plus fonctionner juste à l'intuition. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on a créé une identité. Elle plaît. C'est une marque de niche, hein, attention, mais bon, des niches, il y en a partout. Hein, il faut les dénicher partout dans le monde. Et mon enjeu, c'est comment me développer. Et là, il faut que je me recrée une autre... Enfin, il faut que je me fasse aider encore plus. Mes enjeux, c'est financier. Donc maintenant, j'ai engagé quelqu'un qui encadre les choses à tous les niveaux, quoi, de tout poser, de plus agir, je vous dis, de façon intuitive. Parce que notre difficulté, moi, mon métier, j'avais un cœur de métier qui était de dessiner des vêtements, de savoir faire des vêtements, du style. Et on se retrouve dirigeant d'entreprise. Et moi, c'est un métier que je n'ai pas appris. Mmh. Et que je me suis retrouvée là, je ne sais même pas... comment ni pourquoi, en fait, aujourd'hui. Et il faut que je réapprenne ce métier et je me fais aider. Et il faut que je me fasse aider de façon financière, économique, administrative et également en com. Alors là, c'est autre chose, mais mes enjeux, ils sont là. Voilà, de maintenir la marque, de maintenir le niveau financièrement, de se développer financièrement et d'un autre côté, au niveau de la communication, de l'image de marque, de l'ADN de la marque, de comment le faire évoluer.
Tu as eu des mentors d'un point de vue... gestion, organisation, parce que comme tu dis, ça ne s'invente pas en fait.
Mais moi, en fait, j'étais associée avec celui qui était mon mari.
Ouais.
Alors lui, il avait une vision d'homme d'affaires, hein. Il était visionnaire. Il a vu aussi que je pouvais bosser et produire. Et ce n'est pas un mentor du tout, mais je ne sais même pas si c'est un exemple, mais c'est un mec qui avait beaucoup d'énergie, pas peur. Il ne faut pas avoir peur, hein. Il faut, vous voyez, parce que des fois, on ne dort pas très bien la nuit, on a tout financé, on ne sait pas comment on va vendre. Il faut être un peu un joueur de poker, hein, quand on est un chef d'entreprise, hein, c'est ça. Hein. Lui, il était très comme ça, moi un peu moins, mais quand même. Et au début, ben, je l'ai vu travailler, et j'ai beaucoup appris de lui, je dois le dire, même si ce n'est plus mon mari, même si on est divorcé. Dans sa vision des choses, il m'a dit des choses. Il me dit, Stéphanie, il faut savoir payer les gens. Voilà, cette nana, elle est bien. Tu peux pas la garder que 6 mois. Il faut savoir les payer. Il faut acheter des bons emplacements. Les affaires, il faut les payer aussi. Enfin, il était assez courageux. Il avait une vision d'homme d'affaires que j'avais pas forcément. Moi, j'étais une créative. Et je ne dis pas que c'est un mentor, mais j'ai beaucoup appris de lui. Voilà, avouons-le quand même aujourd'hui.
De quoi t'es la plus fière dans cette aventure ?
Ce dont je suis le plus fière, bah, c'est déjà de vivre plutôt bien de ce que j'aime, d'un rêve d'enfant.
Ouais.
C'est ça. C'est quelque chose que j'aurais même pas pu... En fait, je suis devenue ce que je suis, ce que j'étais, sans presque le vouloir vraiment. Voilà. Et ça, je suis assez fière de ça, d'avoir navigué comme ça. J'ai toujours dessiné des vêtements, enfant, toujours, j'ai toujours dessiné. Et de voir aujourd'hui des femmes dans la rue porter mes vêtements, quelles qu'elles soient, que ça soit une mamie de 90 ans, mais j'en connais, hein, qui vont acheter des habits, moi, des jeunes, des dames de 50 ans. Enfin, et ça me rend fière, je suis contente. Voilà.
Ça se concrétise.
Oui, c'est des rêves qui se concrétisent. C'est peut-être un peu neuneux de dire ça, mais je suis contente de ça. Après, de quoi je suis fière ? Je suis fière du lien que j'ai avec mes enfants. Voilà, ça, je suis assez fière de ça, de ce qu'ils sont devenus. Là aussi, je n'ai pas fait exprès, mais c'est pour ça que ce n'est pas de la fierté. La fierté, c'est des choses qu'on a voulu, qu'on a surmontées, un but qu'on a atteint. C'est ça la fierté. Donc je peux même pas parler de ça, mais je suis contente. Bah, je suis contente de la vie que j'ai, du lien que j'ai avec mes équipes, même si des fois ça gueule et tout. Et puis de vivre financièrement de ça, quoi. De faire ce que j'aime.
Alors, quand on est entrepreneur, il y a plein de premières fois. Est-ce que tu peux nous parler de ta première fois devant des investisseurs ?
Oh là là, oui, je peux vraiment vous en parler. C'était dans un bureau du 8e arrondissement. Il fallait que je lève des fonds, que je montre que ma boîte était viable et tout ça. Et alors, je suis arrivée devant...
T'étais toute seule ?
Alors, juste avant, j'ai déjeuné avec ma fille.
D'accord.
Voilà.
Qui t'a boosté.
Oui, mais j'étais très... je rigolais, j'étais très détendue, bizarrement. Mais moi, j'ai un côté comme ça. Je me dis, bon, Steph, de toute façon, tu vas pas te stresser pour rien. Qu'est-ce qu'on va te faire ? Au pire, on te dit non, on va pas te mettre en prison. Donc, vas-y. Et puis, je me suis trouvée dans une salle sans fenêtre, je crois, avec une grande table ovale et plein de gens en costard-cravate.
D'hommes,
quelques femmes. Vous voyez, et elles n'étaient pas très gentilles. C'est pour ça que j'ai toujours de mal à parler de femmes, d'hommes. Je préfère toujours parler d'individus, vous voyez, mais bon, bref. Et puis, j'étais là avec mon Mac et tout plein d'autocollants. Et là, je me suis sentie mal avec plein de trucs dessus, bordéliques. Et j'ai vu que je me sentais un peu... un peu pas comme un cheveu sur la soupe, mais presque, quoi. J'ai vu que c'était deux mondes différents. Le monde de la finance. Et moi, je parlais de mes vêtements, de mon histoire, des couleurs. Et eux, ils parlaient que d'argent, de combien ça pouvait rapporter. Alors, évidemment, j'avais été briefée, hein, quand même. Et j'ai réussi à les convaincre. Voilà. Mais après, ils essayaient de me mettre en danger, de me mettre un peu, ah ouais, là, l'ourlet. Parce que je montrais des vêtements, j'étais obligée de leur montrer les collections. L'identité, comment me développer, ce que j'avais une stratégie, évidemment, c'est-à-dire combien j'allais avoir de clients. Là, je devais en avoir 50 à l'époque, et qu'il m'en fallait 100, les ouvertures de boutiques, les salons, l'argent que j'allais investir dans des agences pour, évidemment, la boutique en ligne et tout. Et puis les nanas, elles ont dit « Ah ouais, mais là, l'ourlet, il n'est pas trop droit, il est tordu. » Enfin bon, j'avais trouvé ça un peu con, mais je pense que je ne m'en suis pas trop mal tirée. Parce que j'essaie de toujours rester moi-même, de rester à ma place. Parce que dès lors qu'on veut jouer un rôle, hein, qu'on veut prendre une autre place, on vous y remet tout de suite. Donc j'évite, afin qu'on me remette à ma place. J'essaye d'y rester. J'essaye de rester moi-même, de ne pas passer pour une femme d'affaires parce que j'en suis pas une. Je suis une chef d'entreprise, je suis une dirigeante, mais je ne suis pas une femme d'affaires. Je suis une créative. Voilà. Et je sais que ma plus-value, elle est là. Et je sais que c'est ça aussi qui peut rapporter de l'argent. Et donc je reste spontanée. Et c'est peut-être comme ça que je m'en sors toujours, peut-être.
En tout cas, ça reste pas une expérience traumatisante.
Non, pas du tout.
Quel conseil qu'on t'a donné et que t'as pas suivi ?
Je ne suis aucun conseil, en fait. Sauf si c'est des gens que je choisis pour me donner des conseils.
Ouais.
Voilà, des professionnels du conseil. Sinon, j'en écoute pas. Hein. Et
tu te laisses pas influencer par l'entourage ?
Non, sauf... Bon, ça, je vous parle en business. Sinon, personnellement, c'est mon père qui m'a dit... c'est des phrases toutes bêtes, mais pourtant, j'ai essayé de les suivre. C'est « ne t'abrutis jamais ». Voilà, fais ce que tu aimes tout le temps et ne t'abrutis pas. C'est-à-dire que si dans un job, tu n'es pas bien, ne reste pas. Le gain n'est pas que financier dans la vie, ma fille. Voilà. Même pendant mes études, j'apprenais, il fallait que je travaille. Il me disait, mais va au cinéma, va à des concerts parce que c'est ce qui va faire ta personnalité. Ça va t'aider, ça va te nourrir comme autant que tes études. Donc ça, c'est des conseils que j'ai suivis. Sinon, les autres, je ne les écoute pas.
Et toi, celui que tu donnerais ?
Ah, j'en donne pas.
T'en donnes pas non plus.
Ah, j'ai horreur de donner des conseils. Mais qui je suis pour donner un conseil ? Pourquoi donner des leçons de vie aux gens ? Si je dois en donner, c'est faites ce que vous aimez. Si vous avez des rêves, mais croyez-y, si vous avez des ambitions, quelles qu'elles soient, il faut aller au bout de ces ambitions. Voilà. Moi, mes enfants, j'essaye de faire en sorte qu'ils aient du désir et des projets. Ils n'auront pas beaucoup de maisons, ils n'auront pas beaucoup de... Enfin, peut-être grâce à leur père, oui, mais pas grâce à moi. Mais c'est ce que j'essaye de leur dire. C'est les seuls conseils, c'est de ne pas suivre de conseils, de suivre son instinct. Parce que notre instinct, en général, il ne nous trompe pas.
C'est un très bon conseil, ça, tu vois.
Voilà.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
Alors, on en a déjà un petit peu parlé. Tu nous as dit que quand tu étais petite, tu dessinais. Mm-hmm. Et elle était comment, la petite Stéphanie ?
J'étais très solitaire parce que j'étais fille unique. J'aimais pas jouer trop avec les autres enfants. J'avais un ami d'enfance que j'aimais et que j'aime toujours par-dessus tout, c'est Emmanuel. Et je ne voulais être qu'avec lui. Je me sentais en sécurité qu'avec lui. Et lui, il jouait, il allait sur les rochers, alors je lui suivais, mais j'étais gauche. Et quand il allait avec d'autres enfants, je restais près de ma mère, près de ma grand-mère, près de sa mère, Danielle. Et voilà la petite fille que j'étais, très timide et très timorée. On a du mal à le croire aujourd'hui, pourtant c'est vrai.
Et tu as grandi en Corse ?
Oui, je suis née à Paris. Ouais. Ma mère était parisienne. J'ai grandi en Corse, je venais beaucoup à Paris, toutes mes vacances et tout, mais je suis corse, je crois.
Tes racines sont corse.
Ouais.
Et ce goût du dessin, il est venu...
Ça, c'est de la famille de ma mère. Ouais. Ils étaient très artistes, oui. Et j'ai toujours dessiné, toujours, depuis petite. Je vous dis, j'étais solitaire, j'étais fille unique. Mes parents étaient jeunes, ils m'ont eu à 18 ans et 20 ans. Donc, ils étaient toujours à droite, à gauche. Moi, j'étais avec mes grands-parents. Dans une maison dans le Cap-Corse, à Grigione, c'était bien, on était à deux pas de la plage et j'étais souvent seule et je dessinais. Entre Grigione et leur appartement de la place du marché à Bastia, voilà, c'était ma vie, c'était ça. Je crois que j'avais peur des autres enfants.
Et c'était déjà des dessins de vêtements ?
Oui. Oui, oui, oui. Et j'ai eu la chance que j'ai pas eu des parents très conventionnels. C'est vrai qu'ils me faisaient pas des gâteaux à la sortie de l'école. Ils étaient pas forcément très solides. Mais j'avais fait un dessin et ma maman avait cousu une robe elle-même et elle avait brodé ce dessin que j'avais fait sur une robe. Et ça vous donne confiance quand même.
Ah oui, c'est une sacrée fierté.
Ouais, ça vous dit... ce que tu fais, c'est bien et nous, on va le montrer, on va le broder sur une robe. Et j'ai eu cette chance-là, je crois, d'avoir des parents, des grands-parents qui m'ont jamais brimé. Ils m'ont toujours encouragée.
Et ils t'ont donné confiance ?
Je crois. j'ai des confiances, je ne sais pas, parce que j'ai beaucoup de fragilité aussi, hein, j'ai beaucoup de doutes. Mais ça m'a aidée à avoir cette confiance-là, parce que si on ne l'avait pas, on ferait pas des salons, on mettrait pas nos habits sur des pages de magazines, hein, quand même, si ouais. On n'avait pas un minimum de confiance.
Et le dessin t'a suivi en grandissant ?
Tout le temps, ouais, j'ai beaucoup dessiné, toujours. Et alors, bizarrement, maintenant, je ne dessine plus.
Ah bon ?
Parce que, très peu, parce que je suis devenue un peu une DA, quoi. Je fais de la direction artistique.
Ouais.
Et même pas à 100% de mon temps, hein. Ça va faire 30% de mon temps, parce que comme je vous dis, aujourd'hui, je chapeaute, je suis comme un chef d'orchestre qui dirige des musiciens, ouais. C'est ça.
Et ça te manque pas ?
Beaucoup, ouais, ça me manque beaucoup, mais j'ai plus le temps. Mais ça m'a beaucoup aidée, parce que du coup, je m'entends très bien avec ma styliste, et on a le même goût pour les choses.
Et tu peux parler le même langage.
Puis je lui fais des dessins quand même. Hein. Je fais des petits dessins en brouillon, mais elle dessine tellement mieux que moi. Parce que ça se travaille aussi, hein, le dessin. Tout est travail. Ça, il faut le dire. Hein. Dans le conseil, je rebondis sur la question d'avant. Il y a un truc qui sauve aussi, c'est le travail. Et mon père me disait toujours, le talent n'est rien sans travail. Ça, c'est un truc... ça, c'est très important quand même. Hein. La notion de travail dans la vie, dans tout.
Ça s'entretient.
Ça s'entretient, tout ce travail, quoi. Ouais. Si on travaille pas, et même le dessin, on perd.
Et t'as pris des cours ?
Jamais. Jamais. Après, j'ai commencé à l'école, j'avais des cours de dessin, et ma mère trouvait que je perdais de ma créativité avec des cours. Bon, on vous dit, voilà, la maison se fait comme ça, un visage, il se fait comme ça. Bon, c'était à l'école, hein.
Ouais.
Et non, malheureusement, j'ai jamais pris de cours de dessin. Non, non. Et voilà, la petite fille que j'étais, c'est ça. Voilà.
Créative et solitaire.
Oui.
Tu nous as parlé de ton papa, de ta maman. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, tu nous as parlé aussi tout à l'heure de quelqu'un qui t'avait aussi inspiré. Qui a forgé la femme que tu es aujourd'hui ?
Qui a forgé ? Ma grand-mère.
Ouais.
Voilà. Ouais, clairement. C'est vraiment elle, parce que elle est... Ah, vous allez me faire pleurer. C'est émouvant de parler d'elle, parce que c'est... Elle n'était pas du tout chic ni raffinée, mais... c'est grâce à elle, elle m'a jeté les bases en fait, ouais. Pour que je sois, pour que je croie en moi, tout simplement quoi. C'est grâce à elle. Ensuite, ma mère était une femme très élégante, très stylée, donc il m'a beaucoup inspirée. Il y a ma marraine, Stéphane, que je trouve toujours très chic, qui m'inspire beaucoup. Il y a une femme que j'avais rencontrée à l'époque, elle, c'est plus en tant que femme d'affaires, Marie-Stella Castagné, qui avait cette marque Globetrotter, et j'admirais beaucoup cette femme. Je me projetais, je me rêvais comme elle, en fait. Voilà.
Et mais... tu l'avais rencontrée dans le cadre de ton premier projet
ou... Oui, ouais. quand j'avais Baobab, celle ouais. qui a vu mes paniers, elle dit « mais il faut que tu te développes ». Et puis, c'était vraiment une femme entrepreneur que j'admirais beaucoup, Marie-Stella. C'était une marque de meubles qu'elle faisait, Globetrotter, ça s'appelait, il y a très longtemps. Voilà, sinon les femmes qui ont compté pour moi.
Ou des hommes hein, qui ont compté aussi pour toi, éventuellement.
Oui, bah, mon grand-père, mon père, l'amour qu'ils m'ont donné. J'ai eu beaucoup de chance à ce niveau, parce que l'amour, c'est ça qui vous construit quand même. C'est idiot de dire ça, c'est bête, mais c'est vrai quand même.
C'est vrai.
Et d'avoir su être aimé. Alors mes parents m'ont aimé à leur façon, parce qu'ils étaient jeunes, mais, ouais, mais c'est ça qui m'a beaucoup... c'est cet amour de ces gens-là.
Et alors, tu nous as parlé de la partie créative, artiste, du côté de ta maman.
Oui.
Y avait des entrepreneurs dans la famille ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout, non. Alors, ils n'étaient pas entrepreneurs. Mes grands-parents, ils étaient boulangers, pâtissiers. Bon, ils avaient leur commerce. Mais ouais. Voilà. Non, c'est pour ça que je vous dis, je suis devenue une dirigeante d'entreprise alors que je n'avais pas vraiment d'exemple autour de moi, quoi. Franchement, c'est, je ne sais pas comment je me suis retrouvée là.
Mais c'est que tu devais te retrouver là.
C'est que oui, je devais. C'est ça, c'est que j'ai pas beaucoup travaillé pour d'autres gens et ça m'a pas trop plu.
Ouais.
Pourtant, on apprend beaucoup à travailler pour d'autres hein, quand même. Hein. Franchement, bah, j'ai fait beaucoup
de stages.
Qu'est-ce qui t'embêtait ?
Qu'est-ce qui te plaisait pas ?
Qu'est-ce qui me plaisait pas ? Moi, j'aimais pas l'ambiance dans les bureaux. Hein. C'est idiot. J'apprenais beaucoup. J'ai travaillé avec des gens. Je travaillais au magazine Côté Sud. J'ai travaillé avec Anne Sinclair, 7 sur 7. Alors, j'adorais ces personnes-là, mais ce que j'aimais pas, c'était l'entourage, l'équipe, le cadre. Voilà.
Ça bridait ta créativité, peut-être.
Peut-être. Et puis, je suis une passionnée de cinéma, j'ai fait des études de cinéma, et je me suis aperçue très vite que j'avais besoin de créer. J'ai commencé à être attachée de presse, et là, je me suis dit, mais en fait, Steph, tu ne fais que le lien entre la presse et un artiste. Mais toi, qu'est-ce que tu crées ? Et je pense que j'avais des choses à dire. Voilà. Tout simplement. Et je les exprimais à travers ma redilate, à travers ses vêtements, à travers ce style de vie que je veux véhiculer, à travers cette marque, quoi.
Qu'est-ce qui te passionne dans la vie ?
Qu'est-ce qui me passionne ? Le cinéma. Ouais. Beaucoup. Voilà. Et puis, le travail. Je travaille beaucoup. Hein. C'est ça. Hein. Ça doit me plaire de me fatiguer au travail.
Mais du coup, tu te récompenses en regardant des films.
Ah oui, j'aime beaucoup, c'est vraiment ce qui me passionne, c'est ça. Hein. Et puis la nature, nager, j'adore ça. Mais je ne peux pas dire que je sois une grande sportive, hein. Je n'ai pas de passion tellement pour le sport. C'est vrai, c'est le cinéma et la lecture, j'aimais beaucoup lire et j'ai moins le temps, bizarrement. Parce que le travail, ça vous enrichit d'une part, ça peut vous appauvrir aussi, hein, parce que c'est chronophage, quoi. On fait plus que ça, on ne sait plus faire que ça. Il faut savoir s'arrêter un peu aussi.
Et un film qui t'a marqué ?
Oh, un film qui m'a marqué, moi, c'est les films de Cazavette. C'est Une femme sous influence.
Ouais.
Ouais, avec Jenna Roland. C'est vraiment un film qui m'a profondément marqué.
Bon, alors nos auditeurs iront, s'ils n'ont pas vu, iront le voir.
C'est dur hein, comme film, attention. Hein. Sinon, il était une fois en Amérique, ces films de voyous de Scorsese. Mais c'est vrai que ce film-là. Une femme sous influence, ça a été le parcours de cette femme qui devient folle et tout. C'est un film qui m'a, oui, beaucoup marqué. Je ne dis pas qu'il m'a forcément plu, mais je ne suis pas sortie indemne. Et après, j'ai beaucoup aimé À bout de souffle, Le mépris, les films de Godard, comme ça. Et, ah oui, César et Rosalie.
Ah oui.
Voilà, César et Rosalie. C'est vraiment Une femme sous influence. César et Rosalie, Il était une fois en Amérique. C'est des films qui m'ont beaucoup, beaucoup plu.
Et que tu as eu plaisir à regarder avec tes enfants ?
Alors, j'ai amené mon fils à la Cinémathèque voir un film de Scorsese. Je crois que c'était ce film, La Littérature une fois en Amérique, sur grand écran, oui. Sinon, ma fille, elle n'était pas très cinéphile, elle le devient. Voilà. Et avec mon fils, oui, avec mon fils, on regarde beaucoup de films.
Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre, justement, à tes enfants?
Qu'est-ce que j'ai envie de leur transmettre? Le goût du travail.
Ouais.
Et le goût de la vie, quoi, qu'ils apprennent à une espèce d'aptitude au bonheur. J'espère leur transmettre ça. C'est les deux, ça va pas forcément ensemble, mais quand même, pourquoi pas.
Et la résilience, parce que je crois que tu as traversé aussi, avec Marée Dilatée, des moments compliqués perso.
Si je leur apprends la résilience, bah oui, mais je pense qu'en me voyant vivre, ils ont compris ce qu'était la résilience, parce que la résilience dans le travail, ce cadre que je me suis fait par rapport au travail, la résilience à traverser un cancer, et j'ai continué, j'ai tenu bon, j'ai essayé de toujours devant eux être en forme, ne pas me montrer trop dépitée, et je pense qu'en me voyant vivre, peut-être qu'ils apprennent la résilience.
Et à ce moment-là, j'imagine que l'équipe est importante quand on traverse les chimies.
Très importante. Et à l'époque, je n'avais pas une très bonne équipe. Et j'ai perdu 100 000 euros de chiffre.
Ouais.
Parce qu'on n'a pas suivi, parce qu'on n'a pas été en Inde suivre les productions. Et ça a été très dur de surmonter ça. Mais en fait, c'est de la persévérance, tout ça.
Ouais.
Voyez, mes enfants, c'est ça que j'aimerais leur transmettre. La persévérance, ne pas baisser les bras, de toujours y croire. Parce que quand on a une boîte comme la mienne, on traverse des moments compliqués. Et puis, des fois, je dis à ma fille, il faut pas... Là, oui, on est au bon marché, sur les portants. Mais j'allais au tout début avec ma valise. J'ai rentré dans des boutiques. Bon, j'ai essayé d'avoir rendez-vous avant. Et puis, je montrais mes vêtements à des filles qui avaient... créer des vendeuses qui étaient là, qui connaissaient pas forcément le processus de création, qui n'étaient pas toujours très sympas. Des fois, on m'offrait même pas un verre d'eau. On me dit, ah ouais, la patronne va arriver. On me laissait sur une chaise sans me donner un verre d'eau. J'étais avec ma valise, mais il faut quand même avoir du cran et du courage. Et c'est pas facile, franchement, de sortir sa valise, de montrer ses vêtements, d'essayer de noter, de convaincre. Et puis, quand on vous dit non, de surmonter le non, quoi, et de continuer quand même.
Et d'aller à la boutique d'après.
Et d'aller à la boutique d'après, de téléphoner, allô, bonjour, voilà, c'est une amie qui m'a dit de vous appeler. Je pense que les vêtements que je fais pourraient très bien aller chez vous. Est-ce que vous me permettez de venir vous voir pour vous montrer ça? Enfin, vous voyez, c'est... Et là, merci à mes premiers clients, merci à eux, et ils sont toujours fidèles, qui ne sont pas des suiveurs, qui n'ont pas attendu que je sois un peu connue ou vendue dans telle boutique pour vouloir me vendre. Et merci à ces gens. Ça a été des boutiques à Ajaccio, à Bastia, aux filles du Grand Hôtel de Calaros, parce qu'elles ont suivi aussi leur goût. Elles ne se laissent pas dicter ce qu'elles doivent acheter. Et merci à elles, quoi. Merci à ces gens qui ont cru en moi au début, quoi.
Et qui ont, j'imagine, aussi des soutiens dans cette période compliquée que vous avez dû traverser.
Oui. Il y en a qui m'ont lâché, parce que oui, quand j'ai eu ce cancer, j'étais moins d'attaque, je suis moins allée les voir. Et bon, mais c'est humain, hein, c'est... on ne peut pas leur en vouloir, mais d'autres qui sont restés fidèles. Et franchement, j'en leur suis infiniment reconnaissable, quoi. Vraiment. Il y a même des clients qui ont été fidèles dès le début. Certaines années, elles ne commandaient pas Marée Dilatée, mais je ne cherchais pas à vendre dans la même ville. Ben, je préférais ne pas vendre dans une ville comme la station balnéaire Saint-Florent et tout. Je préférais ne pas vendre. Et je savais qu'un jour ou l'autre, elles allaient revenir à moi. Vous voyez, je n'ai peut-être pas très business comme vision des choses, mais pourquoi pas.
Mais en tout cas,
on voit à long terme. Oui, oui.
Si tu avais 2 heures de plus par jour, tu ferais quoi?
Rien.
Tu te reposes.
Ah oui. Oh là là.
Wow. Ta plus grosse claque?
Alors, ma plus grosse claque, ça a été au niveau perso, ça a impacté évidemment le business, ça a été mon divorce.
T'étais associée avec ton mari?
Oui, voilà, c'était mon associé. Donc, comment ça a été une grosse claque, un grand changement dans ma vie parce que j'ai dû prendre des décisions. Là, oui, j'étais face à des dilemmes. Dans quelle ville vivre? Où installer ma boîte? Et comme je vous disais, choisir, c'est renoncer à beaucoup de choses. Et ça a été une grosse claque, un gros remaniement quand même dans la boîte, qu'il a fallu il a fallu se réorganiser. Là, j'avais une assistante à l'époque qui s'appelait Laure, ben, qui m'a suivie. Et là aussi, mais merci. L'humain m'a toujours sauvée quand même. Et elle m'a envie, c'était à Porto Vecchio, donc j'ai changé de ville, j'ai dû réorganiser ma boîte, trouver un entrepôt. On travaillait dans le froid, en plus cet hiver-là, il a fait très froid, j'ai dû reconstruire. Quand je voyais ça, je me dis, mais pourquoi tu as fait ça, Steph? Mais pourquoi tu... Mon Dieu, je n'avais pas réalisé à quel point ça allait être compliqué de tout remanier, et puis de les papiers, comment Jean-Baptiste, il n'allait plus m'accompagner, même s'il ne faisait pas... C'était ma boîte, c'était mon âme, c'est mon identité, c'était... c'est ma marque, ma boîte. Il était quand même associé et il faisait toute la partie administrative, financière. Il me permettait d'être créative. Et là, comment je suis... j'ai dû assumer et devenir encore plus adulte d'un coup. Ça a été une claque, vraiment. Et je pense que je me suis endurcie. Même dans mon travail, je suis moins insouciante. Il me permettait d'être cette personne-là un peu une... Je disais toujours, moi, je suis une femme entretenue qui travaille. Voilà, parce qu'il gérait l'intendance, il gérait pas mal de trucs. Et là, d'un coup, ben oui, j'ai dû grandir, devenir adulte, et puis parler aux financiers, parler de chiffres tout le temps, de bilans. Et ça a été compliqué.
Tu as dû prendre un peu plus la casquette de gestionnaire
complètement,
d'entreprise.
Complètement. Et c'est dur, quoi, de ne pas avoir un binôme. Hein. Même si c'était, il lui faisait plein de choses, donc ce n'était pas forcément un vrai binôme. Et puis, à la fin, on ne s'entendait plus. Donc, mais ça a été... Ça a été une claque, vraiment, dans ma vie, dans la vie de Marie Dilatte.
On arrive vers la fin de cette émission et à mes questions flash. Ah. La question qu'on ne te pose jamais, et c'est tant mieux.
Combien je pèse?
Et la question qu'on ne te pose jamais, mais qui permettrait d'en apprendre beaucoup plus sur toi.
Eh bien, justement, la question que tu m'as posée, les films que j'ai aimés.
Oui.
Parce que, oui... À travers le cinéma, ça peut faire parler de moi. Et, alors, est-ce que j'ai envie de parler de moi? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est des questions... Ou alors, comment je vais?
Et comment tu vas?
Ça va. Ça va plutôt bien là, en ce moment, oui.
Si toi, Stéphanie, tu avais dû choisir une sista, donc une femme entrepreneur sur qui mettre un coup de projecteur, tu aurais choisi qui?
Alors... Il y a des filles, bon, entrepreneurs que j'admire, qui sont Isabelle Marant, évidemment, ou Anne-Fleur Chapelier, parce qu'elle a créé My Little Paris et tout, mais elles sont déjà très connues. Elles n'ont peut-être pas besoin de coups de projecteur. Et moi, j'ai envie de parler de Marianne Canarelli, qui est une jeune fille qui a été stagiaire chez moi.
Oui,
et qui a monté
avec
sa
toi,
boîte.
Oui.
Voilà.
Qui s'appelle...
Et je trouve, elle s'appelle Marianne Canarelli. Et la boîte s'appelle comme ça.
Comme ça.
Elle fait du bijou. Elle fait ça avec son amoureux, qui est joaillier. Alors, elle dessine. Lui, il fait les bijoux. Et ben chapeau. Parce que se lancer dans une boîte, aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, je trouve ça chouette. Et puis, c'est une fille qui a une bonne énergie. J'aime ce qu'elle fait. Elle m'aide tout le temps, elle ne m'a jamais lâchée. Et je pense que ça va être une boîte qui va très bien marcher parce qu'elle a du talent.
Et tu as certainement dû l'inspirer.
Il paraît. C'est ce qu'elle m'a dit une fois. Je trouve que c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau, ça, dans une vie de chef d'entreprise. Quand quelqu'un vous dit, peut-être que si je ne vous avais pas vu, je n'avais pas fait le stage chez vous, je n'aurais peut-être pas monté ma boîte. Et je trouve ça, ça fait plaisir, quoi. Et on se dit, mais... Voilà pourquoi je fais ce que je fais. Si je peux transmettre cette envie-là, ben, tant mieux.
Eh bien, on ira voir ce que fait Marianne Canarelli. Et en tout cas, un grand, grand merci, Stéphanie, pour cet échange plein de sincérité et ton témoignage qui, je pense, en inspirera plus d'un et plus d'une.
Ben, tant mieux. Merci à vous.
40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.